Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Alors, bienvenue dans les portes de la connaissance. Aujourd'hui, on est en direct du Pérou avec quelqu'un que vous avez déjà accueilli à la radio, qui n'était pas sur le plateau. On était en direct du Pérou aussi. C'est Thierry Jamin. On l'avait invité pour les momies de Nazca. Pourquoi ? Parce que on a découvert il y a un certain temps déjà, des momies, laissant penser que ces momies étaient de type exogène et non pas humaine. Et on l'a invité à la radio pour en parler. Des momies, pourquoi ? Parce que ça paraît à questionnement et on se demande d'où viennent ces momies. Et il y a des études poussées, très, très poussées, qui ont été faites par le peuple péruvien là-bas, par des scientifiques, sur l'origine de ces momies. Et l'ADN a été découvert comme étant un ADN mis avec un petit peu, d'ADN humain, mais surtout de l'ADN exogène. Donc, on en avait parlé, et je crois que ça avait beaucoup plu à la radio. Ça avait beaucoup plu, et on en entend beaucoup parler en Amérique du Sud, parce que c'est en Amérique du Sud, bien entendu, qu'on entend parler de ces momies. Donc, il nous en avait parlé, Thierry Jamin, puisque c'est lui qui a mené les investigations, de ses recherches. Mais si aujourd'hui on l'accueille, C'est pas pour les momies, c'est pour autre chose. Alors, Thierry Jamin est explorateur, bien entendu. Il est historien géographe d'études. Il a fait des études d'histoire. Et aujourd'hui, il va nous parler de sa carrière. Qui est-il exactement ? Qui est Thierry Jamin ? Que fait-il dans la vie ? Comment en est-il devenu explorateur? Pourquoi est-il parti au Pérou? On va résoudre toutes ces questions ensemble et on va essayer de faire un beau parcours ensemble sur les terres du Pérou. Alors, juste avant de donner la parole à Thierry Jamin, on va passer une musique pour vous mettre dans l'ambiance et après on reprend la ligne avec Thierry. À tout de suite.
Thank you.
après cette musique des Cités d'Or, vous avez tous reconnu les Cités d'Or que vous avez regardées étant enfant. On est en plein dans le milieu du Pérou. On est dans la civilisation Inca de l'Enfant du Soleil, Inca. Et on est avec Thierry Germain en direct du Pérou. Tu es dans quel coin, Thierry?
Bonjour Patrice, eh bien, écoute, je suis à Cusco, près du centre-ville où j'habite. Cusco, c'est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. En quechua, ça veut dire le nombril du monde, de l'univers andin.
D'accord. Et tu es proche ou loin du Machu Picchu?
Oh, je suis à 70 km à vol d'oiseau du Machu Picchu. Il faut à peu près 4 heures. 4 heures de bus et de train pour atteindre le Machu Picchu. C'est presque une expédition pour y aller aujourd'hui encore.
D'accord. Alors, tu vas nous dire un petit peu à ce qu'il en est, parce que d'abord, comment en es-tu venu? Tu as fait des études, tu as fait quel genre d'études?
Ah ben moi, j'ai fait des études d'histoire géo et... En fait, la genèse de ma passion pour ces recherches en Amérique du Sud et en Amazonie, c'est pour remonter à ma petite enfance. J'adorais lire les bouquins de mon père, qui était également passionné par tous les mystères des civilisations perdues d'Amérique du Sud et d'ailleurs. Et au début des années 80, je me retrouve en fait, aux États-Unis, à New York, avec mon père. Et je m'étais blessé le pied. Et on était allé chez un médecin pour me faire recoudre. Et dans la salle d'attente, je tombe sur un magazine. Je me souviens très bien, le South American Explorer Magazine. C'était le numéro 1. Et il y avait un article intéressant qui faisait état de mystérieuses photographies satellites réalisé en 1975 dans le sud-est du Pérou et sur lesquels on avait détecté des points symétriquement disposés au pied d'une petite cordillère et entourés de ce qui ressemblait à de gigantesques murs et en pleine forêt amazonienne. Et alors, on faisait beaucoup d'hypothèses dans cet article. On parlait d'une cité perdue, de tout un tas de choses. À la fin des années 70, des avionnettes étaient allées reconnaître ces fameux points. Et ils avaient constaté qu'il s'agissait d'immenses pyramides. Et donc, ça avait enflammé les milieux archéologiques sud-américains à l'époque. Et on pensait à une cité égyptienne, une cité atlante, etc. Et donc, moi, gamin, quand je découvre cet article, ça me fait tilt. Et je me suis dit, je veux découvrir le mystère de ces pyramides. C'était l'époque du Sentier Lumineux. Et il était très compliqué, très difficile d'organiser des expéditions, plus encore pour un occidental, dans cette région un peu dangereuse, puisque c'était une zone aux mains des terroristes maoïstes du Sentier Lumineux. Et donc, cette idée fixe m'a poursuivi, m'a hanté pendant toute mon adolescence. Et après le bac, eh bien, je me suis lancé dans des études d'histoire géo dans la perspective d'organiser des expéditions en forêt amazonienne, péruvienne, pour percer le secret de ces pyramides. Et alors, à l'époque, en France, pour réaliser de la recherche archéologique en dehors de nos frontières, eh bien, le cursus, c'était de faire histoire des civilisations et histoire de l'homme. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités de faire des études d'archéologie en tant que telle. ou alors passer par histoire de l'art, mais les historiens de l'art étaient un peu considérés comme un peu comme des poètes, et il y a toujours eu un conflit entre historiens de l'art et historiens de l'homme. Et ceux qui font histoire de l'art étaient destinés surtout à faire de la recherche archéologique en France, dans les DRAC, les directions régionales de culture. Donc on m'avait chaudement recommandé de faire histoire de l'art, et j'ai de histoire de l'art, histoire de l'homme, pardon. Et j'ai donc commencé ces études à Tours, et puis ensuite à Toulouse. Et voilà. Et puis en 98, je monte ma première expédition en Amazonie, donc qui a été un grand échec, hein. Mais bon, j'étais à l'époque inexpérimenté, et c'était surtout l'époque de ma formation, on va dire, sur le terrain, les recherches de contact. Et en 2001, j'ai refait une seconde tentative. Et puis voilà, je suis venu au Pérou, et j'en suis pratiquement jamais reparti.
D'accord. Oui, donc
Et alors à cette époque, pardon, à cette époque, évidemment, on parlait s'agissant de ces pyramides, on parlait même déjà d'une base extraterrestre. Ça, c'était les ufologues. Et on parlait, bien évidemment, de la possibilité qu'il s'agisse des ruines de Païtiti, une ancienne cité perdue que l'on recherche depuis la conquête espagnole du Pérou au début du XVIe siècle. Et c'est le début de mes recherches sur les traces de Païtiti. Ça fait bien maintenant, ça fait 25 ans.
D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est vrai que c'est une belle aventure. Et tu t'es installé au Pérou définitivement quand?
Alors, je me suis installé au Pérou en 85. Dès que j'ai mis le pied à terre, je suis vraiment tombé amoureux de cette culture. Alors moi, je suis originaire de Chartres, pour la petite histoire, et Chartres est jumelée avec Cusco depuis 89, si j'ai bonne mémoire. Et donc, j'ai toujours eu un lien avec cette ville, et je rêvais, étant enfant, de pouvoir vivre ici au Pérou et à Cusco. Pourquoi Cusco? Et pourquoi pas Lima ou une autre ville du Pérou? Eh bien, Cusco, bon, la capitale, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, mais surtout, c'est la grande ville la plus proche de la forêt amazonienne. Donc, pour organiser des expéditions, c'était quand même la base logique de tout mon dispositif.
D'accord, effectivement. Et le Pérou, tu t'es directement installé sur Cusco?
Oui, bien sûr. Cusco, c'était comme je te l'ai expliqué, c'était vraiment l'endroit où on pouvait, enfin, oui, on pouvait organiser, monter des expéditions, constituer une logistique. Et puis, c'est la capitale régionale, une capitale régionale où il y a la direction régionale de culture. Donc, pour faire toutes les démarches, dans le cadre de mes recherches, c'était l'endroit adéquat. Il faut préciser, hein, que bon, on a en 25 ans organisé plus d'une vingtaine d'expéditions en forêt amazonienne, et c'est toujours dans le cadre de projets officiels que l'on présente aux autorités. Ce sont des projets qui sont dirigés par des archéologues péruviens professionnels. Et qui passe dans les différents services du ministère de la Culture pour évaluer le sérieux, la qualité du projet, et qui te remettent généralement un permis pour réaliser ces recherches durant un laps de temps qui est convenu avec les autorités péruviennes. Et tu es généralement accompagné par ce qu'on appelle un superviseur du ministère de la Culture. Et à la conclusion de ces recherches, tu dois remettre aux autorités un rapport de recherche qui doit faire l'objet d'une approbation par les autorités péruviennes. Donc, tu vois, c'est tout un protocole que respecte d'ailleurs n'importe quel archéologue, qu'il soit péruvien ou étranger.
D'accord. Alors, tu as commencé par quoi quand tu as commencé à parce que bon, d'abord la région, faut la découvrir. Je suppose que tu as d'abord découvert la région avant de te lancer dans des recherches. Donc, qu'est-ce que tu as commencé par quoi et quel était ton but en arrivant là-bas?
Alors, bon, effectivement, au début, il faut connaître un peu le pays, essayer de comprendre comment la société fonctionne, etc. Mais ça, c'est assez rapide. On va dire qu'entre 1996 et 1998, j'ai fait un peu de tourisme. Hein. J'ai fait même de l'autostop autour de l'Amérique du Sud pour connaître un peu ce continent magnifique, coloré, folklorique, avec des rencontres humaines extraordinaires, que ce soit au Pérou ou ailleurs. Et à partir de 98, donc j'ai monté ma première expédition. Et une grande leçon que tu as, c'est que ce sont d'abord les relations humaines qui te permettent de fonctionner. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, car j'ai rencontré des personnes qui ont toujours joué des rôles clés dans mes recherches en forêt amazonienne. Et si on a aujourd'hui localisé le site de Païtiti avec 99% de chances de probabilité, c'est vraiment grâce à toutes ces personnes. Et je pense en particulier à un homme que j'ai rencontré après mon fiasco, entre guillemets, de 98. Alors 98, c'était aussi l'année d'El Niño, hein. Il y avait El Niño. C'est un courant d'air chaud qui balaye toute l'hémisphère sud et qui dérègle le climat. Il y avait énormément de pluie, etc. Et la pluie en forêt amazonienne, c'est quand même pas terrible. Et en septembre 1998, je fais la rencontre de Nicole et Herbert Cartagena, qui est un couple magnifique, franco-péruvien, qui recherchait Païtiti dans les années 70 et qui ont organisé plusieurs expéditions à l'époque. Et c'était un petit peu mes héros d'enfance. J'avais lu leurs bouquins quand j'étais jeune ado. Ils avaient publié un livre, Païtiti, dernier refuge des Incas, chez Robert Laffont, en 1982, je crois. Je l'avais lu et relu. Et c'était devenu vraiment mes héros d'enfance avec le colonel Percy Harrison Fawcett. Percy Harrison Fawcett, un colonel anglais qui est né la même année que moi, mais au 19e siècle, et qui, au début du 20e, recherche une cité perdue dans la forêt du Brésil, du Mato Grosso, et qui disparaît en 1925. Et il va y avoir toute une mythologie autour de sa disparition. Et il a écrit des mémoires qui ont été publiées en France en 1954, en 2 tomes. Et je peux t'assurer que c'est pareil, je l'ai lu et relu. C'était vraiment Fawcett et les Cartagena, mes deux grands modèles. Et alors, de rencontrer Nicole et Herbert en 98, c'était pour moi vraiment un très grand bonheur. Et on est vite devenus très intimes, Nicole, Herbert et moi. Et à partir de 2001, Herbert va m'accompagner dans mes premières expéditions. Et je dois dire que je lui dois tout parce que c'est lui qui m'a appris à marcher un peu comme un enfant en bas âge dans la forêt amazonienne. C'est lui qui m'a appris à comprendre la forêt, à ne pas en avoir peur, parce que quand tu débarques depuis la France en forêt amazonienne, tu peux un peu. C'est très impressionnant la forêt amazonienne, c'est très, très sauvage. Il y a des dangers naturels un peu partout. Et il faut savoir, j'allais dire dompter. On ne dompte jamais la forêt amazonienne, c'est elle qui te dompte. Mais il faut savoir la comprendre, connaître ses codes. Et Herbert, pendant les premières années, m'a permis de ne plus avoir peur de la forêt amazonienne et au contraire à l'aimer. Et vraiment, encore une fois, je lui dois tout. Et avec lui, on a organisé nos premières expéditions, nos logistiques. Et voilà, donc Herbert m'a accompagné jusqu'en 2005. Et après, bah, écoute, j'étais capable de marcher tout seul, si je peux dire. Et j'ai constitué une équipe avec l'aide d'Herbert, hein, qui ne m'a jamais quitté et qui me conseillait tout le temps, etc. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières recherches sur les traces des fameuses pyramides amazoniennes dont je te parlais au début, des pyramides du Paratuari, et que l'on a réussi à atteindre d'ailleurs en 2001. Et on s'est aperçu que ces immenses pyramides, il y en a 22, disposées en deux rangées, sont d'origine naturelle, mais certaines semblent avoir été retravaillées par l'homme. Et puis, à 10 km au nord du Paratoari, je me suis intéressé à un autre site constitué de pétroglyphes. Alors, ce sont des figures gravées dans la roche et qui constituent une carte géographique mémoire de toute la région. Non seulement de cette région, mais en réalité de tout l'Empire Inca à une époque déterminée. Et j'ai passé des semaines et des semaines à étudier ces pétroglyphes, Pucharo d'ailleurs. J'ai organisé plusieurs expéditions dans cette zone et on est arrivé en 2006 à des conclusions extraordinaires sur ce que sont les pétroglyphes de Pucharo. Alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'en 2015, les autorités péruviennes de la Banque centrale du Pérou m'ont contacté pour me demander mon autorisation s'ils pouvaient utiliser des photos d'un bouquin que j'ai sorti au Pérou en 2007 sur les pétroglyphes de Pucharo afin de graver une monnaie de 1 sol à l'effigie du département du Madre de Dios, qui est voisin du département de Cusco, en utilisant les pétroglyphes de Pucharo. Et d'ailleurs, sur la monnaie, ils ont indiqué pétroglyphes de Pucharo, 15e, 16e siècle. C'est-à-dire qu'ils ont adopté mon hypothèse selon laquelle ces pétroglyphes ont été réalisés par les Incas à la fin du 15e siècle et ne sont pas l'œuvre d'une civilisation amazonienne disparue il y a des milliers d'années, voire d'extraterrestres, comme on peut le lire ici ou là. Les différentes études qu'on a faites aux pétroglyphes nous ont montré, en effet, la filiation culturelle indéniable des Incas. Mais on a découvert des choses extraordinaires ici. Je pourrais t'en parler des heures, puisque on a observé des séquences de signes idéographiques qui pourraient les rattacher à une ancienne écriture. On sait que les Incas, enfin, on pense que les Incas n'avaient pas d'écriture. Et ils utilisaient surtout les cordelettes à nœuds, les fameux quipus. Mais pourtant, dans le langage quechua, le terme écriture existe. C'est le mot quelqu'un. Et il existe toute une lexicographie tournant autour de ce concept d'écriture. On n'a pas d'exemple à travers l'histoire des civilisations, à travers le monde, d'un mot qui aurait été inventé sans recouvrir un concept. Et donc la conclusion, c'est qu'il devait bien exister une écriture à l'époque inca, une écriture qui serait apparue avant même l'apparition des fils du soleil, comme tu disais, et qui aurait peu à peu disparu et qui aurait été utilisée, on va dire, par des initiés, les Amautas. Et à Pucharo, donc, on a des fragments de cette écriture. Et c'est la raison pour laquelle je considère les pétroglyphes de Pucharo vraiment d'une grande valeur historique, puisque c'est un peu pour moi la pierre de Rosette de la civilisation inca. C'est ce qui m'avait poussé en 2007 à écrire un bouquin paru ici au Pérou, chez Edisa, Pucharo, La Memoria Recobrada de los Incas, c'est-à-dire la mémoire retrouvée des Incas.
D'accord. Alors, on va faire une pause musicale pour nos auditeurs et pour aller faire un beau voyage dans les flûtes de Pan du Pérou. Et puis, on se rejoint tout de suite après. Alors, ne quitte pas, Thierry, ne quitte pas. On se rejoint dans 3 minutes.
Ça marche.
Après ce beau voyage dans le pays inca au Pérou avec les flûtes péruviennes, on revient en direct avec Thierry Jamin qui nous téléphone de Cusco, du Pérou, où nous faisons un voyage pour parler de sa carrière professionnelle en tant qu'explorateur. C'est notre Indiana Jones, je dirais, du Pérou. Voilà, on peut le comparer à ça. Et en même temps, il est celui qui est historien et géographe, c'est-à-dire qu'il répertorie toute l'histoire et toutes les monuments qu'il peut éventuellement découvrir et mettre en avant pour le patrimoine, je dirais, du Pérou et pour notre plaisir à nous d'avoir des découvertes et de découvrir des choses extraordinaires dans un pays qui nous est pour la plupart inconnu et que nous regardons à la télé ou dans les émissions qui nous sont proposées. Alors, Thierry, justement, j'aimerais te demander, le Pérou, tu y es installé depuis maintenant, ça va faire combien de temps? 85, c'est ça, tu as dit?
Non, 2005.
Oui, mais, ah
Depuis 2005.
oui, parce que j'ai fait le rapprochement avec une autre, oui, voilà. Donc, tu es 2005, tu y es installé et tu, dans tes recherches, quelles sont les recherches, quelles sont les découvertes, je dirais, parce qu'on a beaucoup en parlé, beaucoup entendu parler, ce qui a fait parler de toi énormément, évidemment, c'est les momies de Nazca. C'était à quelle période, ça, que tu les as découvertes?
Alors les momies, nous on ne les a pas découvertes, c'est un pilleur de tombes, hein, comme il en existe malheureusement beaucoup au Pérou et ailleurs, qui nous a contactés vers la fin de l'année 2016. Et voilà, et qui nous a parlé de ces curieuses reliques. Mais avant cela, si tu veux, nous... On s'est mis au début des années 2000 à rechercher le site de Païtiti, la grande cité perdue ici au Pérou. On parle d'ailleurs de Païtiti Eldorado. Et on a organisé énormément de campagnes de recherche, d'exploration dans les départements de Madre de Dios et de Cusco pour essayer de localiser ce grand site archéologique. Et cela nous a permis justement, en pénétrant dans certaines vallées isolées, de découvrir plusieurs dizaines de sites archéologiques extraordinaires dans le nord-est de Cusco, de Machu Picchu. Alors, il s'agit de forteresses, de petits centres de production agricole. Ce sont également des nécropoles et une quinzaine de petites cités perdues, peuplées de centaines d'édifices avec leurs petites rues, leurs petites places, etc., de véritables Pompéi amazoniennes. Et ces cités étaient échelonnées dans cette vallée. Elle semblait se diriger vers le nord du département de Cusco, du moins nous on les a suivies comme ça. Elles étaient reliées les unes aux autres d'un ou 2 km, ce qui veut dire qu'elles pouvaient communiquer l'une avec l'autre en cas de danger et d'invasion. Tu sais, les Incas communiquaient avec ce qu'on appelait des pututus. Le pututu, c'était des gros coquillages, des conques. Hein, avec lesquels, en soufflant à l'intérieur, ça faisait un peu comme une sirène qui s'entend de très loin. Et les Incas et les pré-Incas, d'ailleurs, dans cette région, pouvaient ainsi communiquer entre eux comme ça en cas de danger. Et donc, entre 2009 et 2014, on a réalisé une exploration vraiment passionnante qui nous a permis d'aller de découverte en découverte, avec le ministère de la Culture, puisque tous ces sites ont été enregistrés par les autorités péruviennes. Et à un moment donné, on a eu l'impression, mais assez rapidement d'ailleurs, à partir de 2010, qu'un site principal devait contrôler toutes ces petites cités. Et pas forcément d'ailleurs d'origine inca, hein. On avait des indices de la présence des Huari, par exemple, dans la vallée de Lhaco Yavero, au nord de Cusco. Et donc, on avait l'impression, en tout cas, c'était mon sixième sens à moi, qui me disait qu'une grande cité devait exister quelque part plus vers le nord et qui devait contrôler tous ces territoires. Et ça ne pouvait être qu'un grand site archéologique, une capitale régionale, on va dire, parce que Cusco, la capitale impériale, était à 250 km. Donc, elle ne pouvait pas administrativement gérer toutes ces petits sites. Donc, on s'est mis à la recherche de ce site principal qui n'était d'ailleurs pas forcément Paititi, hein. Il pouvait s'agir d'un autre site inconnu comme Machu Picchu, par exemple. Et à partir de 2010, on arrive aux frontières du sanctuaire national de Meghantoni, qui est un sanctuaire, un parc voisin du parc national du Manu, dans lequel se trouvent les pyramides du Paratuari et les pétroglyphes de Pucharo. Bref, on arrive aux marges de ce sanctuaire et on rencontre des natifs de la jungle, les Matsigangas, qui nous parlent, qui commencent à nous parler de la présence d'une mystérieuse montagne au sommet de laquelle, pardon, existaient des ruines monumentales. Et certains Matsigangas nous disent même que le grand site que je recherche, que Paititi, il ne prononçait pas le nom, hein. On comprenait qu'il s'agissait de ce site, que Paititi se cachait au sommet de cette montagne. Parfois, il disait les ruines de Panthiakoya. Alors, quand tu dis Panthiakoya, les ruines de Panthiakoya, c'est un synonyme de Paititi. Panthiakoya, c'est un massif montagneux qui traverse une partie des départements de Cusco et du Madre de Dios. Et dans lequel aurait été construit Paititi. Panthiakoya, ça veut dire, c'est du quechua, le lieu où se perd la princesse. Et c'est une allusion, une référence lointaine à la Colla, l'épouse de l'empereur Atahualpa, qui avait été capturée par Pissarro en 1532 et qui devait emmener aux Espagnols un butin fabuleux d'or et d'argent chargé sur 10, 15 ou 20 000 lamas et apprenant l'assassinat, l'exécution d'Atahualpa par Pissarro en 1533, eh bien, la légende raconte que la Colla aurait conduit sa horte de lamas vers un site mystérieux, le Paititi, où elle aurait caché la deuxième rançon d'Atahualpa. Et c'est tout le drame d'ailleurs de Paititi, puisque la plupart des aventuriers, des explorateurs depuis le XVIe siècle qui recherchent Paititi sont généralement animés par la découverte de ce fabuleux trésor d'Atahualpa. Et c'est la raison pour laquelle, d'année en année, de siècle en siècle, on a parlé de Paititi Eldorado. Et même Voltaire, dans son Candide, est inspiré par la légende de Paititi. Et donc, voilà, donc pendant toutes ces années, on est à la recherche de cette fameuse montagne. Je passe évidemment les détails, mais on va finir par la localiser grâce à un partenariat qu'on a avec Spot Image, qui est devenu Astrium et aujourd'hui Airbus Defence and Space, qui me parraine depuis 1996 à la suite d'une émission que j'avais réalisée avec Gérard Holtz sur Europe 1 à l'époque, qui s'appelait Système G. Et voilà. Et donc en 2012, on localise cette fameuse montagne et on va organiser plusieurs expéditions pour essayer de l'atteindre. Ça va être assez compliqué de l'atteindre par voie terrestre. Et puis, alors 2012, c'est aussi l'année de Machu Picchu, puisque quelques mois auparavant, j'avais été contacté par un Français, David Crespi, qui travaillait du moins à l'époque à Barcelone, qui s'occupait de l'entreprise Magna, une société canadienne d'accessoires auto. Et il était allé en 2010 à Machu Picchu et il avait observé la présence de ce qui lui paraissait être une entrée bouchée au pied de l'un des principaux temples de Machu Picchu. On parle du temple des trois portes. Et personne ne lui avait porté intérêt, ni les archéologues du sanctuaire de Machu Picchu, donc, ni du ministère de la Culture. Et donc, en désespoir de cause, en 2011, il m'avait contacté. Et donc, alors, ça va être toute une aventure dont pas mal de médias, National Geo, etc., ont parlé à l'époque, puisqu'on a confirmé la présence de cette entrée et l'existence de cavités souterraines dans les soubassements de ce temple, puisqu'on a localisé, découvert grâce à des géoradars la présence d'un très probable contexte funéraire qui, étant donné le contexte archéologique, etc., ne pouvait appartenir qu'à un personnage de haut rang de la société Inca. Or, plusieurs traditions racontent que l'empereur Pachacutec, le fondateur de l'empire Inca, le Tahuantinsuyu, avait ordonné la construction de Machu Picchu et il avait également construit son mausolée dans la citadelle pour être enterré dans ce lieu après sa mort, donc avec toute sa lignée. Et tout ce que l'on a découvert en 2012 correspond à ce que certains chroniqueurs, comme Juan de Betanzos, nous racontent. Alors, ça a été énormément de polémiques. J'ai même reçu des menaces de mort. Ma maison a été sous protection policière pendant près d'un mois. Et ça a valu à l'Institut Incari, que mes amis et moi avons créé en 2009, une certaine aura au Pérou. Et c'est la raison pour laquelle, en 2016, Mario, ou plus exactement l'un des amis de Mario, nous a contactés pour avoir notre opinion concernant d'étranges reliques momifiées. Et donc, sans l'affaire de Machu Picchu, si tu veux, Patrice, il n'y aurait pas eu d'affaire de Nazca, puisque c'est grâce à Machu Picchu que Mario et ses compagnons nous ont contactés. C'est assez marrant.
D'accord. Alors, quelles sont tes plus belles découvertes? Qu'est-ce que tu as fait comme découverte extraordinaire? Qu'est-ce qui t'a marqué dans tes découvertes?
Oh, bah, tu sais, je me sens. Dans ces recherches, il faut être vraiment très humble parce que sans les rencontres, sans les rencontres de terrain, on n'arrive pas à avancer. Et c'est grâce à ces rencontres que nous avons, par exemple, pu découvrir dans les vallées de Laco, de Chuchusmayo, au nord du département de Cusco, plus d'une trentaine de sites archéologiques exceptionnels qui sont désormais enregistrés au ministère de la Culture. Et c'était très émouvant de rentrer dans des temples magnifiques avec des niches, une cinquantaine de niches dans l'un des temples d'une cité qui s'appelle Yactapata, et te dire que tu es sûrement l'un des premiers à mettre les pieds dans cette citadelle depuis des siècles. Alors, ces sites sont toujours dans la forêt. Hein. Le ministère de la Culture, qui pourtant connaît leur existence, n'a pas encore entamé de programme pour récupérer ces sites, les restaurer et les mettre en valeur. Il n'y a que les huaqueros, les pilleurs, qui éventuellement les connaissent et viennent les piller. Et puis, l'un de mes trophées, entre guillemets, c'est Pucharo. Pucharo, les pétroglyphes de Pucharo ont été découverts par un moine dominicain en Vicente de Cenitagoya en 1921. mais il n'avait fait l'objet d'aucune étude sérieuse, d'aucune étude scientifique. Et nous, on s'y est attardé. Et j'ai travaillé à Poucharo pendant des années, et nous avons fait des découvertes extraordinaires sur ce site. On a vu, par exemple, des pétroglyphes apparaître et disparaître comme par magie, grâce à des jeux de lumière avec le soleil, etc. On a sur la partie supérieure de la paroi principale de Poucharo, parce qu'il y a en fait trois sites de pétroglyphes au moins, sur la paroi supérieure, donc, que l'on considérait comme la paroi brute, en fait, de nuit et avec des lumières artificielles, on a découvert des dizaines de pétroglyphes, qui sont d'ailleurs presque des bas-reliefs, extraordinaires, de nature cosmogonique, avec des scènes étranges et à la fois magnifiques et émouvantes. Et là, je peux te dire, c'était en 2006, qu'on a été sûrement les premiers depuis le 15e siècle à pouvoir les contempler, parce que ça a été vraiment un coup de circonstance exceptionnel. Et alors tous ces pétroglyphes nouveaux ont été découverts par moi et mon équipe et moi, et enregistrés au ministère de la Culture. Ils ont fait l'objet de publications, et c'est pour moi l'une de mes découvertes principales et préférées. Et puis, ce que l'on a réalisé au Machu Picchu entre 2011 et 2014, c'est, je pense, également un grand trésor archéologique que l'on a mis en évidence, à savoir le très très probable mausolée de Pachacutec que l'on recherche depuis le 16e siècle. Et quand on a officialisé ces découvertes grâce à nos géoradars, on a présenté un nouveau projet au ministère de la Culture. Et là, les autorités nous ont barré la route, les autorités locales du ministère de la Culture et de Machu Picchu. Et on nous a interdit de réaliser l'ouverture des salles que l'on a découvertes. Et alors, ça a été encore une fois des polémiques à n'en plus finir, et des menaces de mort, je l'ai dit, mais également presque une crise politique entre le Pérou et la France, puisque Laurent Fabius a dû intervenir. J'ai rencontré plusieurs fois les conseillers du président de la République du Pérou, la première dame du Pérou, etc., au palais présidentiel à l'époque, pour essayer de trouver une issue diplomatique. Ça avait pris des proportions assez délirantes. Et en 2014, bon, on a décidé, pour essayer de calmer le jeu, d'abandonner notre projet d'ouverture de ces salles souterraines. Et c'est vraiment une très grande tristesse, parce qu'on sait que l'on a découvert, grâce à David Crespi, un grand trésor archéologique. Parce que c'est non seulement des salles funéraires, une dizaine de salles de taille humaine, mais on a également détecté, grâce à nos géoradars, la présence de matériel archéologique très important. Et pour mettre en évidence la présence de ce matériel archéologique, on cherchait des objets de métal. Et donc, on a eu la surprise de mettre en évidence des dépôts d'or et d'argent extrêmement importants dans les salles situées à quelques mètres sous le temple des Trois Portes. Et donc, pour des raisons de jalousie professionnelle, le projet est arrêté depuis 2014, et on se prive de connaissances très importantes, très certainement, puisque dans ces salles, il y a sûrement une grande partie de l'histoire perdue ou cachée de l'Empire Inca. Et puis, quand même, ma recherche principale, c'est Paititi. Et on pense avoir localisé la cité, donc, au sommet de cette montagne. Et ça a été l'objet de toutes mes recherches de terrain. Après 2012, après l'affaire de Machu Picchu, on s'est redirigé vers la forêt amazonienne pour essayer d'atteindre cette fameuse montagne.
Alors, il nous reste 3 minutes d'émission. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditeurs pour ceux qui veulent aller au Pérou? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater là-bas?
Le Pérou, C'est un pays qui contient des merveilles archéologiques, historiques. Je vais te dire évidemment le Machu Picchu, mais il y a tellement de sites que c'est un peu compliqué, un peu vain de conseiller. C'est aussi une gastronomie, hein. Tu sais qu'il y a un tourisme gastronomique au Pérou. Il y a la cuisine péruvienne, c'est l'une des 10 meilleures cuisines au monde, hein, et il y a les grands cuisiniers péruviens qui viennent se former à Lyon, ici en France. Et puis dans quelques années, j'espère, les touristes français pourront venir visiter les ruines de Païtiti, puisque on essaye de convaincre les autorités à organiser une opération spéciale pour confirmer la présence de Païtiti au sommet de cette montagne. J'aimerais, si tu me le permets, Patrice, signaler que nous sommes actuellement en train de monter une opération LIDAR. Qui est destiné à cartographier le site archéologique, puisqu'on sait qu'il est là, on l'a survolé en 2019, et on a des images satellites qui sont venues renforcer ces observations. Et donc, on fait une opération LIDAR pour pouvoir cartographier, comme on l'a fait au Mexique ou au Guatemala avec les cités Mayas. On voudrait les premières images scanner HD de Païtiti, et c'est dans les semaines, les mois qui viennent. Et j'invite tous tes auditeurs à rejoindre cette opération. On a une opération sur la plateforme Tipeee, Thierry Jamin Païtiti. Et si ils veulent soutenir cette opération, eh bien, ils nous aideront à acquérir dans le courant du mois de février ou du mois de mars les toutes premières images de Païtiti. On verra toutes les structures, tous les temples. Et Païtiti, encore une fois, c'est la reine des cités perdues sud-américaines. Voltaire parlait de la mirobolante cité de Païtiti en raison de ces légendes de trésors perdus d'Atahualpa.
D'accord. Alors, comment on peut te trouver sur Internet? Comment on peut aller suivre ce que tu fais?
Alors, on peut me trouver facilement sur Facebook. On tape mon nom, Thierry Jamin, et on me trouve assez facilement. On peut me trouver sur la plateforme Tipeee, je le répète, Thierry Jamin Païtiti, et on me trouvera. Et puis j'ai un site personnel, www.thierryjamin.com, et on trouve toutes les recherches effectuées par moi et mon groupe et moi.
D'accord. Merci Thierry, merci infiniment pour ce beau témoignage en direct du Pérou de Cusco. Merci
Écoute,
infiniment, ça nous te
c'était un
remercie.
plaisir.
Voilà, ben, c'était un véritable plaisir pour moi de t'avoir à l'antenne. Merci infiniment. La prochaine émission, ce sera certainement à Eric Buffeteau avec les animaux mystérieux, style les animaux comme le monstre du Loch Ness, ce genre d'animaux. Vous l'aviez déjà eu à la radio, vous l'aviez déjà eu parce qu'il était venu faire une émission sur les dinosaures. Voilà, donc on se retrouvera avec lui et puis on aura de nombreuses autres émissions. En tout cas, merci Thierry, merci infiniment pour cette belle émission. Merci infiniment. Et puis, bah, peut-être à une prochaine fois, qui sait?
Ce sera avec grand plaisir, Patrice. À très bientôt et encore très bonne année à toi, à Evelyne et à tous tes auditeurs.
Alors, ne quitte pas, ne quitte pas. Les auditeurs, je vous laisse avec cette musique Inca et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre émission. Voilà, au revoir. Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.